This is me, back in my college days.
Me voici alors que j'étais étudiant. Et voici mon colocataire de l'époque, Mark Zuckerberg. Ensemble, nous avons fondé Facebook en 2004. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je crois que Facebook est devenu trop gros, trop puissant. Chaque semaine, charrie son lot de gros titres sur des violations de la vie privée, des ingérences dans les élections, des problèmes de santé mentale. Je ne fais plus partie de la compagnie depuis plus d'une décennie, mais je me sens responsable des dommages causés. Les Américains ont le droit de redresser la barre par le biais de leur gouvernement. Il est temps de briser Facebook.
L'ancien bras droit de Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, Christopher Hughes, il est temps de briser et de démanteler ce réseau. Voilà ce qu'il disait en mai dernier. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment la Silicon Valley a-t-elle mis la technologie au service d'une idéologie? Notre invité, le journaliste et documentariste Fabien Benoît, a mené l'enquête des origines du mouvement qui réunit une communauté de chercheurs de Stanford jusqu'à aujourd'hui. Cet Eldorado entrepreneurial traversé par des mythologies et des valeurs américaines, celles des pionniers de la conquête des territoires, qui entendent bâtir un nouveau monde. La Silicon Valley, cette mecque des nouvelles technologies, il la raconte dans un livre, The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley qui paraît aux arènes. Bonjour à vous Fabien Benoît.
Bonjour.
À vos côtés, le philosophe Emmanuel Alloa, maître de conférence à l'université de Saint-Gall en Suisse. Vous avez coordonné le dossier de la revue Esprit qui fait son nouveau numéro sur l'idéologie de la Silicon Valley et vous avez contribué à hauteur de l'égalitarisme automatisé, c'est le titre de votre contribution, où vous vous demandez également comment cette vallée est devenue en l'espèce de quelques années, quelques décennies surtout, le technopole le plus influent de la planète. Bonjour Emmanuel Alloa.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. C'est un terme inventé en 71 par le journaliste Don Fleur, ce terme de Silicon Valley. C'est une ancienne vallée maraîchère. À quoi ressemble aujourd'hui, Fabien Benoît, cette Silicon Valley, physiquement, concrètement?
Alors, il y a un journaliste, un ancien ingénieur de la Silicon Valley qui a passé toute sa vie là-bas, que j'interviewais en faisant mon enquête, qui me disait la Silicon Valley, c'est une révolution de l'intérieur. C'est-à-dire, tout se passe en fait dans le secret des laboratoires de recherche, dans le secret des laboratoires des entreprises, dans les universités. Et il y a un peu de ça, physiquement, dans la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de signe de grandeur. Alors, on pourra objecter que le nouveau siège d'Apple est tout à fait impressionnant, cette espèce de bâtiment gigantesque, circulaire. Mais globalement, c'est quand même plutôt un enchaînement voilà, de bâtiments, de sièges, d'entreprises. Et on ne voit pas grand-chose, en fait, de ce qui s'y passe.
C'est un endroit où il fait bon vivre. Vous auriez envie d'y vivre?
Moi, pas spécialement. On a l'impression que tout le monde est affairé au travail. On me disait, en fait, ici, on n'a pas le temps de boire un café, de regarder les gens passer. C'était quelqu'un à Stanford qui me disait ça. Il me disait ça, tu le fais à Paris, mais tu le fais pas ici, dans la Silicon Valley. Il y a un côté, on me racontait aussi que cette Silicon Valley, ce qui a fait sa richesse et ce qui a catalysé aussi son essor, à un moment de son histoire, ça a été la présence d'acteurs de la contre-culture, d'artistes, de penseurs. Et on m'a souvent dit qu'en fait, tout ça avait disparu au profit d'ingénieurs et puis aussi d'investisseurs, de capital risqueurs qui ont joué un rôle crucial dans l'émergence de la Silicon Valley et que tout ça s'est finalement assez aseptisé. Et pour cette raison-là, ça m'invite assez peu à aller y vivre.
Vous restez avec nous. Emmanuel Alloa, on imagine mal à quel point, à partir de ce petit bout de terre, de territoire, de cette vallée, aujourd'hui, l'influence que ce périmètre peut avoir sur le reste du monde. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un état dans l'état, ou plus que c'est la concrétisation de ce que Fernand Braudel, et vous le citez de votre côté, Fabien Benoît, appelait l'économie monde? Comment, à partir de ce territoire, ces entreprises arrivent à rayonner sur le reste du monde?
Alors, effectivement, d'un point de vue économique, en termes de revenus, en termes de génération de richesse, on est face à un territoire quand même assez circonscrit qui produit de la valeur bien au-delà de bon nombre d'États-nations dans le monde. Mais je pense que foncièrement, il n'est pas pertinent de délimiter un territoire circonscrit à l'intérieur de la Californie, mais plutôt de penser comment ce modèle a essaimé, a rayonné, et comment les entreprises aujourd'hui de la Silicon Valley, notamment les grandes plateformes, on pense aux GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple possèdent aujourd'hui, disposent aujourd'hui d'infrastructures qui déterminent nos vies, nos quotidiens et les influencent de façon peut-être bien plus déterminante que nos propres gouvernements, que nos propres États.
C'est une entreprise mondiale avec ses ramifications locales néanmoins. Pourquoi l'histoire politique de la Silicon Valley pour vous, Fabien Benoît, a tout quand même d'une histoire américaine dans ce concentré ou condensé de valeurs qu'elle incarne aujourd'hui?
Moi, je pense qu'elle s'inscrit quand même, en tout cas, l'émergence de la Silicon Valley s'inscrit dans ce territoire de la Californie, donc dans cette vallée entre San Francisco et San José, un petit territoire qui fait presque à peine 70 kilomètres ou 80 kilomètres d'amplitude d'un bout à l'autre. Et je pense qu'il est assez tributaire des grands mythes américains et qu'il est emprunt de cette culture-là et de cette mythologie. Je pense en particulier à la conquête de l'Ouest, à l'idée de destinée manifeste, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est-à-dire presque une mission messianique, c'est-à-dire de changer le monde, de tout recommencer. Je discutais aussi avec une start-upeuse, une chef d'entreprise dans la Silicon Valley qui me disait, si tu veux comprendre la Silicon Valley, il faut que t'en reviennes au mythe ou à la mythologie de la ruée vers l'or. Il y a aussi ça dans la Silicon Valley. Quand on entend parler les gens là-bas, même leur langage reflète, si on veut, cette mythologie américaine. C'est-à-dire, on va parler d'évangélistes pour les gens qui essaient de convertir les profanes à leur vue. On va parler de pionniers, on va parler de frontières, on parlera de la frontière, de la nouvelle frontière en parlant d'Internet.
Ils se sentent investis d'une destinée manifeste, hein, comme vous l'écrivez. We own the future. Le présent ne leur suffit pas. La Silicon Valley voit loin et entend aussi se saisir de l'avenir. C'est une temporalité qui regarde droit devant. Vous avez discuté avec une autre personne, c'est Jean-Claude Latombe, le robotiste franco-américain, professeur émérite à l'université de Stanford. Et lui, il vous dit, si tu veux comprendre la Silicon Valley, tu dois comprendre d'abord Stanford.
Oui, si on veut trouver un point de départ dans l'histoire de la Silicon Valley, alors c'est évidemment arbitraire, mais on peut penser à la création de Stanford à la fin du 19e, en 1871, qui est créée par un mania des chemins de fer, Leland Stanford. Cette université va précipiter quand même assez largement l'essor de la Silicon Valley, dans la mesure où elle va nourrir en son sein tout un faisceau de recherche en matière d'électronique, et puis de plus tard ce qui va s'appeler finalement l'informatique, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Elle va aussi tisser, et c'est un point très important et qu'il faut souligner, des relations avec l'État, avec les entreprises, et catalyser une forme de relation tripartite, une sorte de triangle de fer, pour y mettre une expression, pour la qualifier. Et ça va vraiment être un élément moteur dans l'émergence de la Silicon Valley.
Vous le racontez aussi, Emmanuel Holloy, la Silicon Valley s'est construite en deux vagues. En quoi Stanford, l'université qui est aujourd'hui la deuxième plus grande ou la plus riche université du pays, la rivale d'Harvard implantée sur la côte ouest, va devenir vraiment le centre névralgique de ce qui va se développer par la suite?
Oui, je pense que c'est un élément tout à fait crucial dans cette histoire. C'est penser en fait le lien entre des fonds publics, des investissements universitaires publics qui permettent ensuite l'essor d'initiatives privées.
Le monde de la recherche.
Le monde de la recherche, absolument. Ouais. Donc on a une forme de triangulation entre le monde universitaire, la recherche, et Stanford joue effectivement un rôle majeur. On a les militaires, on a toute la recherche balistique notamment, toute la recherche sur les infrastructures militaires et puis les initiatives privées, la contre-culture. D'ailleurs, en parlant de Stanford, il y a une anecdote assez emblématique à mon sens, parce que avant même de fonder l'université de Stanford en l'honneur de son fils qui était décédé, Leland Stanford, le fondateur, avait résolu un grand dilemme qui secouait la côte Est et l'Europe. C'est comment représenter en fait un cheval en mouvement. De la Croix et autres participaient de cette discussion. Et Leland Stanford résout le problème puisqu'il fait venir le chronophotographe Étienne-Jules Marais. Il l'installe sur l'hippodrome sur le territoire duquel surgira plus tard l'université de Stanford et nous montre donc que toutes les représentations dans l'art jusque-là était fausse, puisque le cheval au galop aura les pattes ramassées. Donc une solution d'ingénierie technique à un problème qu'on croyait être de l'ordre des humanités ou des idées.
La deuxième vague que vous situez dans les années 60-70, c'est celle aussi qui va voir apparaître ce terme de Silicon Valley. Pourquoi ? D'où vient ce mot ?
Oui, alors c'est rigolo parce que c'est tout simplement un des semi-conducteurs qu'on a utilisé pour le développement de ces circuits intégrés qui feront donc le succès de la Silicon Valley. La Silicon Valley aurait pu tout aussi bien s'appeler autrement. On a failli devoir l'appeler Germanium Valley, ou je ne sais pas trop comment il faudrait l'appeler, puisque il y avait d'autres semi-conducteurs qui tenait l'eau du pavé, mais finalement on a opté pour le silicium, puisque le silicone, c'est la traduction anglaise du mot silicium, le silicium étant ce semi-conducteur qui permet un nombre quasiment infini de réagencement, d'articulation. Donc on va vers cette idée de malléabilité infinie.
De plasticité. Et vous dites, c'est conforme à la promesse en fait de cette vallée déjà, à l'époque.
Tout à fait, puisque c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la ruée vers l'ouest, c'est la ruée vers l'or, c'est une ruée vers l'ouest. On voit les pionniers qui arrivent quelque part de plus en plus se rapprochent du Pacifique. On ne peut pas aller beaucoup plus loin et les frontières sont d'ordre nouveau, sont d'ordre peut-être virtuel et il faut s'inventer d'autres futurs puisqu'on ne peut pas aller plus loin et ça sera donc de l'ordre d'une telle pensée des possibilités infinies, de la potentialisation infinie. Rien ne nous résiste. Donc penser en fait des infrastructures qui nous permettraient ensuite d'agir de façon complètement libre.
Alors, qui sont vraiment les pionniers, Fabien Benoît, les bons et les mauvais génies de cette Silicon Valley?
Alors, la liste est assez longue.
Choisissez-en quelques-uns.
Fred Sterman est évidemment un personnage qui va jouer un rôle assez important du côté de Stanford, dans la mesure où il va créer un vrai département d'ingénierie et il va encourager la création d'entreprises sur le campus de Stanford, à commencer par Hewlett-Packard, qui est historiquement l'emblème de ce démarrage entrepreneurial. C'est un symbole, mais en tout cas de ce démarrage entrepreneurial de la Silicon Valley. Après lui, on peut noter...
Et ce fameux triangle de fer vous évoquiez à l'instant, Emmanuel, c'est-à-dire ce partenariat privilégié entre universités, armées et entreprises privées.
Qu'il va initier, encourager, catalyser, dont il va faire la marque de fabrique, si on veut, de la région. Il faut évidemment citer William Shockley, l'inventeur du transistor, qui n'est pas la moindre des inventions et qui va donner lieu à une succession d'innovations, à commencer par la radiophonie, la télé et la micro-informatique, qui lui rejoint la région et initie une nouvelle façon de faire de la recherche dans la région. On peut évidemment ensuite, du côté aussi de ces ingénieurs entrepreneurs, parler de Robert Noyce, qui va lui donner naissance au circuit intégré, puis au microprocesseur, qui lui va permettre la miniaturisation et la micro-informatique, pour le dire vite.
Et il y avait déjà à l'époque des adeptes, des fidèles et des traîtres. Qui étaient les 8 traîtres? Qu'ont-ils fait pour être aussi qualifiés comme ça par la suite?
En fait, William Shockley, lui, travaillait sur la côte Est et avait pour réputation d'être un homme assez exécrable et de se fâcher avec tous ses collaborateurs. Il décide de rejoindre la Californie après en étant un peu en rupture de banc par rapport avec l'entreprise dans laquelle il travaillait précédemment, qui était le Bell Lab sur la côte Est. Et donc, il crée un laboratoire où il engage toute une série de docteurs en physique, en mathématiques, en chimie. Et parmi eux, il y a toute une jeune génération, dont ce Robert Noyce, qui très vite, en fait, se rend compte qu'il est très difficile de travailler avec William Shockley, qui ont des divergences stratégiques. Et il décide, en fait, de faire sécession pour créer une nouvelle entreprise. Un phénomène qui avait assez peu cours à l'époque, mais qui est devenu presque une norme aujourd'hui. Et il crée Fairchild, qu'on qualifie souvent de mère de toutes les entreprises, parce qu'elle va vraiment essaimer dans la vallée, et tous ses membres vont donner eux-mêmes naissance à des entreprises technologiques dans la région. Et donc voilà, ces jeunes chercheurs qui quittent Shockley sont qualifiés par lui-même de traîtres quand ils montent Fairchild.
Si on en revient à ces pionniers, quelle était la part d'utopie qui les guidait finalement dans cette opération, ce hold-up qu'ils vont réaliser sur ce territoire, mais aussi sur nos esprits à ce moment-là, dans les années 60-70, quand le terme de hacker va apparaître, quand le premier réseau informatique ApraNet va sortir aussi au grand jour, quand le message login va être envoyé pour la première fois en 69, de la part de ces hommes-là, parce que c'était majoritairement des hommes d'ailleurs, quelle est l'utopie qui les guide?
Oui, oui, je pense que c'est là aussi, encore une fois, un ferment crucial pour comprendre cette histoire. C'est-à-dire, là, on est en Californie, après tout, on est vraiment dans le creuset d'une contre-culture hippie, une contre-culture en termes des idées. Il y a une autre université dont on n'a pas encore parlé, c'est Berkeley, donc l'idée de free speech, d'un retour à l'amendement fondamental de la Constitution américaine, qui est quand même la liberté de parole, la liberté d'expression, qui était défendue à ce moment-là. Donc la Californie devient un creuset pour tous ces jeunes idéalistes, ces jeunes utopistes, qui notamment préconisent un retour à la terre. Alors c'est assez intéressant qu'on a un retour au localisme, aux choses locales, la naissance d'un festival comme le Burning Man au milieu du désert, qui est donc aujourd'hui encore quelque chose qui survit à ce modèle-là, un retour à une vie quasiment pré-technologique, et en même temps le développement de circuits, le développement d'une sorte de Minitel, on pourrait dire, avant l'heure, qui s'installe à San Francisco, pour échanger des petits messages, des petites annonces, mais aussi tout de suite l'essor d'une nouvelle figure qui est celle du bidouilleur qui bricole dans ses garages, hein, tout ce mythe au fond des fondateurs d'entreprises qui s'installent dans leur garage, qui quittent l'université, qui sont évidemment anti-militaristes, mais qui finiront par contribuer à ce grand triangle étatico-militaire privé, puisque c'est sur la base des deux autres que prendra son essor cette idée de l'entrepreneuriat utopique.
Voilà, chacun son ordinateur, ce que vous appelez la révolution des garages, Fabien Benoît, que vous racontez sous ce titre-là, c'est-à-dire chacun son ordi, et en même temps l'idée d'un ordinateur pour tous qui a été favorisé par une deuxième génération de hackers. Là, on retrouve tout ces idéaux ou ces valeurs de la contre-culture américaine. Vous diriez aujourd'hui que leurs idéaux, cette utopie-là, elle a été trahie par la suite, ou qu'au contraire, elle portait déjà en germe tout ce qui allait se produire?
C'est un peu le paradoxe de la Silicon Valley. On pourrait répondre à cette question oui et non. Le propos de mon livre, c'est de dire que les rêves, parce qu'on parlait de ça à l'instant, les rêves, les utopies étaient des utopies de libération, d'émancipation, de libération vis-à-vis des hiérarchies, de l'establishment, ce genre de choses-là. On peut dire que ces rêves-là ont quand même été phagocytés et rattrapés par le marché et par la quête de profit. Il y a un moment qui est assez charnière dans cette histoire, c'est-à-dire en 1977, naît Apple. Apple commercialise son premier ordinateur, et finalement, en fait, c'est un peu le début de la fin. C'est-à-dire que tout ce qui avait été, injecté dans le rêve informatique, c'est-à-dire cette idée de libération, cette idée de partage libre, gratuit, va être assez rapidement rattrapé par le marché, la quête de profit, quelque chose de beaucoup plus finalement cynique.
Mais c'est pas par le marché, c'est pas une captation de l'extérieur. C'est ceux-là même qui ont rêvé, qui vont à un moment retourner leur rêve ou passer de cette utopie-là à une utopie beaucoup plus pragmatique et générer ce qu'on connaît aujourd'hui. Les mêmes personnes, les Steve Jobs, les Bill Gates qui étaient déjà là à ce moment-là. Il est passé, lui, du mouvement hippie au monde des affaires. En 85, le militant libertaire Jerry Rubin justifiait ainsi sa conversion.
The people that were active in the 1960s went through internal changes in the 1970s.
Les activistes des années 60 ont évolué dans les années 70. Et dans les années 80, ils sont en passe de prendre le contrôle de l'Amérique.
And to those people who say that because we put on a tie or changed our dress a little bit.
Et à ceux qui nous disent que parce que nous avons mis une cravate et changé un peu notre allure, nous avons renoncé, je dis c'est absurde. Nous prenons le contrôle. La stratégie de cette génération, c'est d'entraîner les États-Unis et le Canada vers le capitalisme entrepreneurial. Je sais que dans les années 60, nous étions contre le capitalisme, nous étions contre le business. Mais nous avons appris que les alternatives au capitalisme ne laissaient pas beaucoup de place à la liberté. Et nous sommes en train de passer d'un capitalisme des affaires à un capitalisme entrepreneurial.
In the early 70s, we realized that the tactics of the 60s were no longer appropriate
Au début des années 70, nous avons réalisé que les tactiques des années 60 n'étaient plus valables pour les années 70 et 80. Et mieux que ça, nous avons réalisé que nous étions la majorité aux États-Unis, que nous contrôlerons les élections de 1988. Pourquoi nous définir comme des protestataires, comme des outsiders, comme des rebelles qui contestent les politiques de ceux qui sont au pouvoir, quand nous pouvons devenir ceux qui ont le pouvoir?
Eh bien oui, Emmanuel Alloa, quand on a cette possibilité-là, quand on se rend compte du pouvoir qu'on a entre ses mains, pourquoi s'en priver?
Alors ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on a essayé de développer dans ce dossier sur l'idéologie de la Silicon Valley, dans lequel il y a notamment un entretien en fait avec Fred Turner, qui est le grand historien de ce mouvement de la Silicon Valley et du croisement de l'alliance très peu saine d'ailleurs et très peu sacrée entre cette contre-culture contestataire des années 70, donc foncièrement anti-autoritaire, anti-hiérarchique, anti-étatique, avec ces nouvelles formes capitalisme entrepreneurial. Et pourquoi alors ne pas, et je réponds à votre question, passer tout simplement à une prise de pouvoir, pourquoi ne pas en faire un parti politique comme un autre? Eh bien, parce que toute l'idée, et c'est ce qu'on essaye, c'est l'hypothèse qu'on essayait de mettre à l'épreuve, consiste à nier le caractère politique du programme qui est mis en œuvre ici. Quand on a utilisé le mot d'idéologie, c'était pas tout simplement pour revenir à un terme souvent galvaudé, mais parce qu'il nomme quelque chose d'assez précis. Théodore Adorno l'a bien dit, toute idéologie a toujours une part de vérité et de fausseté. La vérité, c'est que toute idéologie a besoin de réaliser une partie de ses promesses pour se maintenir, et qu'en même temps, elle est fausse parce qu'elle la réalité qu'elle projette est toujours décalée par rapport à celle qu'elle promeut. Alors pourquoi idéologie de la Silicon Valley? On a fait cette hypothèse avec Jean-Baptiste Souffron, avec qui on a préparé ce dossier, qu'il y a donc une séparation foncière, une séparation quasiment métaphysique, si on entend par métaphysique donc l'idée qu'il y a d'une part de la physique, des infrastructures, des chemins de distribution, de canalisation, de communication, et d'autre part des idées, des pratiques. Par exemple, la politique, c'est donc cet espace des idées qui circulent. La Silicon Valley est métaphysique en ce sens qu'elle nous dit, mais au fond, on vous fournit des infrastructures à partir desquelles ensuite vous ferez tout ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que au lieu de défendre un parti, une ligne, un programme, c'est tout simplement toute l'infrastructure qui est fournie. Et c'est évident qu'il y a d'une part une infrastructure qui oriente les pratiques même que nous aurons la possibilité de développer sur la base de ces infrastructures. Et en même temps, il y a un déni du fait même que ces infrastructures orientent les messages qui seront échangés sur ces canaux.
Donc en fait, en fournissant les infrastructures, on fournit avec le modèle civilisationnel presque, le cadre dans lequel...
On fournit le cadre, mais en même temps, il y a évidemment constamment un déni de ça. Il y a une idéologie de la transparence qui fait que d'une part, on nous dit mais tout est possible, vous faites ce que vous voulez, vous échangez les idées que vous voulez, vous pratiquez les choses que vous voulez, et d'autre part, il y a évidemment une création d'infrastructures qui passe par le code. Code is law, disait Lawrence Lessig, et tout est dit dans cette formule. Le code, c'est la loi. Quand vous faites le code, vous faites la loi.
Dans les années 90, que vous situez aussi comme étant un tournant de votre côté, Fabien Benoît, dans cet ouvrage que vous avez publié, The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, Peter Thiel déclare que la technologie est une vraie alternative à la politique. Et on retrouve un peu ce paradoxe, cette schizophrénie que évoquait à l'instant Emmanuel Alloa, c'est-à-dire faire de la politique ou du politique sans déclarer en être partie prenante. Il y a quand même des penseurs, des icônes, des influenceurs qui ont nourri cette idéologie, cette utopie numérique, et notamment Ayn Rand, l'une des grandes penseuses américaines de ce siècle dernier, l'égérie des grands patrons de la Silicon Valley, figure mythique de ce libertarianisme américain. Qu'est-ce qu'elle défendait comme valeurs, elle, qui ont été reprises par la suite?
Ayn Rand alors était particulièrement attachée à la liberté individuelle et à l'individu. Elle avait souvent tendance à dire que son combat, elle, c'était l'individu contre la société. Elle niait l'existence même de la société et par là du collectif. Ayn Rand est devenue et a été et toujours une figure tutélaire du mouvement libertarien américain. Donc c'est quelque chose de très américain pour le coup, les libertariens qu'on connaît moins bien en Europe. Les libertariens placent la liberté individuelle au-dessus de tout. L'instance régulatrice de la société, si on peut dire, même s'il nie l'existence en fin de compte de la société, c'est le marché. Les marchés doivent être libres et ils se régulent tout seuls. L'ennemi des libertariens, c'est l'État. Et on retrouve tout ça chez Ayn Rand. Et ce n'est pas un hasard. Ayn Rand était née en URSS. Elle avait assisté à la révolution bolchévique. Elle en avait gardé un traumatisme profond et un rejet profond, farouche, féroce du collectivisme et plus largement du collectif. Et dans la Silicon Valley, cette idéologie-là, en tout cas cette vision portée par Ayn Rand, trouve un écho assez fort. Vous citiez Peter Thiel, c'est une des personnes qui s'en revendique. Et pour compléter un petit peu la situation, la citation que vous venez de prononcer, Peter Thiel, lui dit on est engagé dans une course à mort entre la politique et la technologie. Quand il parle de politique, il entend la délibération collective, la représentation, la démocratie. Enfin, c'est du moins comme ça que je l'interprète.
Alors, juste pour préciser sur Ayn Rand, que c'est une influence active mais posthume. Elle n'a pas théorisé la Silicon Valley puisqu'elle est morte en 82, mais elle a beaucoup influencé à travers notamment deux de ses ouvrages. Alors, elle est l'auteur de La Grève et puis l'ouvrage Farce et la Source Vive, paru en 43. Qu'est-ce que vous appelez, vous, Emmanuel Alloy, cet égalitarisme automatisé?
Oui, en fait, la formule vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'était aussi une façon de réagir un petit peu à ce qui me semble être le grand consensus, souvent en France, Jean-François Ravel l'avait déjà bien dit, ce qui met d'accord la gauche et la droite en France, c'est une seule chose, c'est l'anti-américanisme. Et il me semble que dans tout ce sujet, sur la Silicon Valley, on sent un peu revenir de temps en temps ce thème de l'affect anti-américain, c'est vraiment un marronnier. Donc je voulais un peu faire la part des choses dans cette histoire et dire qu'il y a quand même une part d'utopie, il y a une part émancipation, de promesses de libération, d'une pensée de la technologie qu'il faut sur laquelle il faut revenir, mais comprendre aussi quel type d'égalité est mise en œuvre ici. Et alors, c'est vrai que la pensée binaire n'est pas forcément une mauvaise pensée, si on entend par là une pensée de l'opération, c'est-à-dire pour l'ingénieur, c'est la possibilité de séparer le médium et le contenu. Et ça nous libère énormément quand on n'a pas tout le temps à penser comment ça s'écrit. Apprendre un alphabet vous permet d'apprendre énormément de choses dont vous n'avez pas encore, même pas l'idée aujourd'hui. Mais cette séparation-là du médium et du contenu, qui a donc été fondamentale dans l'histoire de l'humanité et qui relève donc d'une pensée de l'ingénierie, et qui permet, là encore, de tout encoder, hein, et je pense que c'est fondamental, tout encoder, ça veut dire tenir compte de tout, potentiellement, même des choses qui ne comptent pas encore, même des choses qui n'ont jamais été enregistrées. L'histoire du phonographe, c'est ça. Montrer que des sons qui n'ont encore aucun sens, ben, peut-être potentiellement un jour en aura un, se retourne aujourd'hui en une pensée, en fait, de l'automatisation qui nous empêche de poser la question du sens. C'est-à-dire que cette dissociation-là du contenu et du médium, qui était importante en termes d'émancipation au fil de l'histoire de la modernité, se retourne aujourd'hui pour produire une forme d'égalitarisme des algorithmes qui ne tient absolument plus compte des impacts sur la vie et sur le réel.
Les grandes entreprises de la Silicon Valley veulent aujourd'hui s'accaparer notre avenir. Racontez-vous, Fabien Benoît, il n'y a pas de frontières et les limites même du monde semblent ne plus leur suffire. Exemple avec Elon Musk. Sa société a lancé en mai 2018 SpaceX, sa fusée nouvelle génération.
3, 2, 1, 0. Ignition, lift off. 16h14, heure de Cap Canaveral, le Falcon 9 s'élance dans l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, le premier étage de la fusée, un gigantesque cylindre de 40 mètres de haut, se pose sur une barge dans l'océan Atlantique. Il va pouvoir être réutilisé pour d'autres tirs, réutilisé une centaine de fois, assure SpaceX, avec un minimum de maintenance tous les 10 vols. Née en 2002, l'entreprise d'Elon Musk est déjà beaucoup plus compétitive que ses concurrents. Mettre un satellite en orbite lui coûte environ 61 millions de dollars. Quand l'Européen Arianespace dépasse les 90 millions. Avec ses nouveaux lanceurs en partie recyclables, SpaceX devrait encore creuser l'écart dans un marché où le nombre de clients augmente de façon considérable d'année en année. Son autre projet, envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale dès la fin de l'année.
Le monde ne leur suffit plus, ils partent maintenant à la conquête comme les pionniers d'avant, mais à la conquête cette fois de l'espace. Elon Musk, c'est l'exemple de ce que vous appelez cet entrepreneur qui se part des atours démiurgiques. C'est le démiurge d'aujourd'hui.
Je pense qu'il y a de ça dans le côté sans limite un petit peu de ce genre de personnage. Je pense que la décennie qui s'est ouverte, la décennie 2010 pour la Silicon Valley est un peu celle de la tentation hégémonique de l'âge de la démesure, c'est-à-dire plus rien ne doit nous résister en un sens. On va s'attaquer à tout, on va tout disrupter, pour reprendre le terme en vogue dans la Silicon Valley. On va s'attaquer à tout ce qui était de l'ordre des prérogatives de l'État, la conquête spatiale, le renseignement, la monnaie. Il y a cette idée de tout embrasser, et je pense qu'un des traits caractéristiques aujourd'hui de la Silicon Valley, on parle de la Silicon Valley, pas d'Internet, pas du web, mais de la Silicon Valley et de son projet, c'est de tout mettre sur le marché, de tout transformer en données, de ne plus rien laisser de côté et de s'attaquer à tous les pans de la société.
Jusqu'à tous les pans de notre esprit, parce que les réseaux sociaux, parce que ces entreprises ne visent pas simplement très loin, elles visent aussi à prendre un peu le contrôle des relations humaines. C'est Bruno Patino, le directeur éditorial d'Arte, qui dans un essai récent, La civilisation du poisson rouge, paru chez Grasset, parle d'un véritable marché de l'attention aujourd'hui, toujours plus aussi dans ce sens-là, s'immiscer dans tous les recoins de notre esprit et de nos vies. Emmanuel Alloy.
Oui, l'attention est devenue une ressource aujourd'hui, une ressource capitalisable qu'on peut capter et qu'on peut revendre. C'est pour ça que j'ai un peu du mal toujours avec cette idée de la disruption totale, parce qu'on pourrait, comme chez dans le roman du Guépard, dire qu'il faut que tout change pour que rien ne change, parce que c'est quand même aussi souvent un projet social qui consiste à maintenir les inégalités et ne surtout rien faire à ce niveau-là. Vous avez tout le projet, par exemple, d'Uber, et des fournisseurs de transport qui engagent des partenariats avec le public, qui consistent par exemple à faire disparaître les transports publics et permettre ensuite aux communes en Californie aujourd'hui déjà de détourner l'argent public et subventionner en fait des entreprises comme Uber pour fournir les transports soi-disant dans l'intérêt du citoyen. On voit la même chose pour...
C'est-à-dire que l'État qui au début a financé toutes ces innovations aujourd'hui se retrouve aussi grignoté sur son propre domaine, voire à s'inspirer directement de ce que font les plateformes.
C'est ça. La politique doit se modeler sur les plateformes. L'État doit devenir une plateforme qui fournit le logiciel pour les échanges. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'idée des pionniers qu'on ventile souvent, parce que en fait, la majeure partie des entreprises de la Silicon Valley sont des rentiers aujourd'hui. N'inventent absolument plus rien, mais gèrent leur logiciel qui fonctionne très bien. Le premier fournisseur mondial d'hébergement aujourd'hui, Airbnb, ne possède pas le moindre bien immobilier. On a, par exemple, le premier site marchand au monde, Alibaba, en Chine, ne dispose d'aucun entrepôt. Hein, et les deux premiers fournisseurs de messagerie, WhatsApp et WeChat, n'ont encore jamais investi le moindre centime dans les infrastructures de la télécommunication. Donc on voit bien aujourd'hui que ces mécanismes de rentiers expliquent pourquoi certains oligopoles sont en train de se former au détriment de l'idée qui nous est constamment vendu, qui est celle d'une plus grande libération des individus.
Voilà, et comme vous le rappelez dans une mise en garde de fin, Fabien Benoît, que le lecteur de cet ouvrage ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de nier en bloc les avancées permises par la technologie, mais bien plutôt d'avoir le droit de savoir, de choisir et de trier parmi elles. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table de Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, votre enquête politique, idéologique et technologique, Fabien Benoît, apparue aux éditions Les Arènes, l'Esprit et la revue Esprit dans son nouveau numéro, son numéro de mai, revient donc sur cette idéologie de la Silicon Valley avec votre contribution, entre autres Emmanuel Alloy, sur l'égalitarisme automatisé. Merci mille fois à tous les deux et à toute l'équipe de la Grande Table, c'est-à-dire Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse, toujours très précieuse, de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Morgane Badan. Très bel après-midi sur France Culture.